serrant dans sa menotte une tuile de mahjong, minuscule objet d'ivoire et de bambou, dont un coin s'était enfoncé dans son front pâle, au-dessus de son nez, gravant une encoche parfaite entre ses sourcils blonds. Il avait réussi à se mettre en position assise, mais il était trop sonné pour se relever. Le sang plissait entre ses yeux, dégoulinait du bout de son nez. Le chien, qui s'était réveillé en frétillant, avait léché son visage ensanglanté. Cette attention affectueuse l'avait un peu réconforté. Il avait 7 ans et son père l'avait surnommé « le petit garçon à sa maman », pour la seule et mauvaise raison qu'il détestait la chasse. Pourquoi tirer sur des êtres vivants, avait-il demandé à son père. Le chien non plus n'aimait pas la chasse. C'était une chienne, un golden retriever. Toute petite, elle était tombée dans la piscine des voisins et elle avait failli se noyer. Depuis, elle avait peur de l'eau. Très anormal chez un labrador. Comme était anormal, selon le père d'Edward, tyran domestique aux idées bien arrêtées, l'incapacité de la chienne à rapporter balle ou bâton, et encore moins un oiseau mort. Un golden retriever qui ne rapporte pas, ça sert à quoi, disait souvent oncle Yann, qui était un sale type. Mais Edward aimait sa chienne avec son horreur de l'eau et de la chasse, et la brave bête adorait Edward. Graham, le père, jugeait que fils et chienne étaient des poules mouillées. Et aux yeux de l'enfant, son oncle était une brute, bête et méchante. Autant de circonstances qui aident à comprendre la suite. Père et oncle, partis à la chasse au faisan, on était rentrés avec 2 victimes. À l'époque, la famille habitait Coralville, grande banlieue d'Iowa City. Edward était assis sur le carrelage de la cuisine, le visage en sang, et la chienne donnait l'impression qu'elle se préparait à le dévorer lorsque les 2 hommes, entrés par la porte du garage, firent irruption dans la cuisine avec le retriever d'oncle Yann. Un Chesapeake Bay, gros mâle et cervelé qui partageait avec son maître des dispositions hargneuses et un manque évident de moralité. « Béatrice, saloperie de chienne !» avait braillé le père d'Edward. Il avait affublé la chienne de ce nom par pure dérision. « Une chienne qui s'appelait Béatrice, disait oncle Yann, est tout juste bonne à se faire stériliser. Faut surtout pas qu'elle se reproduise. Elle altérerait une noble race. » Les 2 chasseurs avaient donc laissé Edward assis sur le sol de la cuisine pendant qu'ils entraînaient la chienne dehors et l'abattaient dans l'allée du garage. On ne s'attendait guère à entendre une histoire pareille, lorsque, bien plus tard dans sa vie, Edward Bonchow désignait son front, et après cette entrée en matière d'un flegme désarmant, « si vous voulez savoir comment je me suis fait cette cicatrice », se lançait dans le récit brutal du meurtre de Béatrice, sa chienne adorée, la bête la plus douce qu'on puisse imaginer. Et pendant toutes ces années, il avait gardé la jolie tuile de Mahjong qui avait gravé un V indélébile sur sa peau claire. Était-ce à cause de l'entaille bénigne causée par le porte-serviette, entaille qui avait enfin cessé de saigner? Toujours est-il que cet épisode cauchemardesque de l'enfance de son Edward Bonchow bien-aimé avait refait surface. Le vol de Hong Kong à Manille était-il trop court pour lui permettre un sommeil profond? Pourtant, il était plus long qu'il n'aurait cru, 2 heures. Mais il les passa dans un demi-sommeil agité, peuplé de rêves décousus, preuve de plus à ses yeux qu'il avait absorbé 2 bêta-bloquants au lieu d'un. Il allait rêver en pointillé jusqu'à Manille, et tout d'abord de l'horrible histoire de la cicatrice. De l'oppressor et voilà le travail. Cependant, dans l'état de fatigue où il se trouvait, il s'estima heureux d'avoir rêvé, fût-ce par à-coup. Le passé était son habitat le plus confortable. Là, au moins, il savait qui il était. Et pas seulement en tant que romancier. Il y a souvent trop de dialogues dans les rêves décousus. Les événements s'y succèdent avec violence, sans crier gare. À l'hôpital de la Croix-Rouge, le Cruz Roja de Oaxaca. On avait installé les cabinets de consultation à côté de l'entrée des urgences, initiative délibérée ou malencontreuse, prêtant à confusion. Une petite fille mordue par un chien des toits fut ainsi introduite dans le cabinet du docteur Vargas par erreur. Malgré ses mains et ses avant-bras lacérés, car elle les avait mis en avant pour se protéger, elle ne présentait aucun problème orthopédique évident. Or, le docteur Vargas était orthopédiste. Même s'il lui arrivait de traiter les gens de cirque, les gamins de la décharge et les orphelins des enfants perdus sans se limiter à sa spécialité. Il était très irrité que la petite lui ait été amenée. Ça va aller, disait-il à l'enfant en pleurs. C'est aux urgences qu'il faut la conduire, pas chez moi, répétait-il à sa mère dont les nerfs étaient en train de lâcher. Dans la salle d'attente, cet enfant déchiqueté par un chien perturbait tout le monde, y compris Edward Bonshaw, qui venait à peine d'arriver en ville. Qu'est-ce que c'est qu'un chien des toits ? S'enquit-il auprès de Pépé. Ce n'est sûrement pas le nom d'une race. Ils suivirent Vargas dans son cabinet, Juan Diego, sur un chariot. Loupé baragouina quelques mots que son frère blessé s'abstint de traduire. Elle expliquait en effet que certains de ces chiens étaient des esprits, des spectres de chiens martyrisés de leur vivant. Ils hantaient les toits de la ville et s'en prenaient aux innocents parce que leur propre innocence avait été violée et qu'ils criaient vengeance. Ils erraient sur les toits. Et comme ces chiens volants étaient devenus des fantômes, désormais on ne pouvait plus leur faire de mal. « En voilà une longue réponse, qu'est-ce qu'elle a dit ?» demanda Edward à Juan Diego. « Vous avez raison, ce n'est pas une race, » résuma prudemment le gamin. « Ce sont des corgnaux en général. Il y a beaucoup de chiens errants à Oaxaca. » Certains sont retournés à l'état sauvage. Ils passent leur vie sur les toits. Allez savoir comment ils y montent, » expliqua frère Pépé. « Ce ne sont pas des chiens volants, » ajouta Juan Diego, mais Loupé poursuivait son babil. « Bon, et toi, qu'est-ce qui t'arrive ?» demanda le médecin à la fillette. « Calme-toi, prends ton temps, que je comprenne bien. »« C'est moi le malade, » glissa Juan Diego au médecin qui n'avait pas fait attention au chariot. « Elle, c'est ma petite sœur. » Le docteur Vargas était jeune et beau. Il dégageait cette aura de noblesse impérieuse que confère souvent la réussite. Il avait l'habitude d'avoir raison, était souvent contrarié par l'incompétence des autres et coutumier des jugements hâtifs sur les gens qu'il rencontrait pour la première fois. Il était, de l'aveu général, le meilleur chirurgien orthopédiste de Oaxaca, ayant pour spécialité les enfants infirmes, et un de ceux qui se soucient de leur sort. Pourtant, il prenait tout le monde à rebrousse-poil, les enfants parce qu'il en voyait tant qu'il finissait par les confondre, les adultes parce qu'il lui reprochait son arrogance. « Alors c'est toi le malade ?» demanda-t-il à Juan Diego. « Parle-moi de toi, pas besoin de me dire que tu es un gosse de la décharge, ça se sent à plein nez, je le connais, le basurero. Parle-moi de ton pied, c'est tout ce qui m'intéresse. »« Mais l'histoire de mon pied, elle est liée à la décharge. Un pick-up de Guerrero m'est passé dessus avec une pleine cargaison de cuivre, ça pèse lourd. » Parfois Loupé s'exprimait par énumération, et c'est ce qu'elle fit. 1. Ce docteur est un sinistre abruti. 2. Il a honte d'être encore en vie. 3. Il estime qu'il aurait dû mourir. 4. Il va te dire qu'il faut que tu fasses une radio. Mais c'est reculer pour mieux sauter, parce qu'il sait déjà qu'il peut rien pour ton pied. On dirait du zapotec ou du mixtec, commenta le docteur Vargas. Comme le gamin ne le trouvait pas très sympathique, il décida de lui traduire les assertions de Loupé. Elle a dit tout ça ? En général, elle ne se trompe pas sur le passé. Sur l'avenir, elle est moins pertinente. Il faut effectivement te faire une radio, et il est probable que je ne pourrai rien pour ton pied, mais j'ai besoin de voir les clichés avant de te dire ce qu'il en est, expliqua le médecin. Tu as fait venir notre ami jésuite pour obtenir une assistance divine, poursuivit-il en désignant Pépé d'un signe de tête. À Oaxaca, ce dernier était encore plus connu que le docteur Vargas. Ma mère est femme de service chez les jésuites, et lui, il s'occupe de nous. Lui désignait El Jefe, qui l'interrompit. C'est moi qui étais au volant du pick-up, ajouta-t-il d'un air coupable. Loupé refit son numéro du rétroviseur cassé, mais Juan Diego ne se donna pas la peine de traduire. D'ailleurs, la petite était passée à un autre sujet, et elle étayait dans le détail son verdict selon lequel le docteur était un sinistre abruti. Il s'est saoulé la veille. Alors il s'est pas réveillé. Il a raté son avion, celui qu'il devait prendre avec sa famille. L'avion s'est écrasé avec ses parents à bord, plus sa sœur, son beau-frère et leurs deux enfants. Tous morts, pendant que Vargas cuvait sa cuite, s'exclama Loupé. Quelle voix de crécelle, dit le médecin à Juan Diego. Il faudrait que j'examine sa gorge. Ses cordes vocales, peut-être. Juan Diego fit ses condoléances au docteur Vargas pour la perte qu'il avait subie. Elle t'a dit ça aussi ? Loupé était devenu intarissable. « Vargas avait hérité de la maison de ses parents et de tous leurs biens. Ses parents étaient très croyants et le fait que lui ne l'était pas avait souvent été une source de conflits.